je viens de l'année 2044. Donc là, j'ai 8 ans, en fait. Donc je suis venu en 2018 pour faire cette formation. Et surtout, Anouk m'a demandé d'intervenir pour vous parler un petit peu de l'espace public aujourd'hui et dans le passé, aujourd'hui, et surtout de ce qui va lui advenir et de comment on peut, comment vous allez pouvoir, vous, modifier un peu le cours des choses. Elle m'a demandé ça parce qu'en fait, bon, on est en lien un peu télépathique à travers le temps. Il s'est passé un événement assez important en 2024, en mars 2024, qu'on appelle la rupture. À savoir que le G11 donc, s'est réuni à Dalian, en Corée, et par une décision unanime, a décidé de monétiser l'utilisation de l'espace public. Donc on appelle ça la convention de Dalian, qui a été validée par l'ONU, le FMI, l'OMC, et qui a été ratifiée progressivement par les 231 pays du globe. Et dans l'article 2, cette convention stipule que toute utilisation non rationnelle ou non utilitaire de l'espace public, telle que définie à l'article 4, doit faire l'objet d'une indemnisation de la part de l'usager envers l'autorité régulatrice des espaces publics dans des montants et des modalités de versement fixés à la discrétion des pays signataires. C'est un peu verbeux. En gros, ce que ça veut dire, c'est que mendier, flâner, faire son jogging, jouer au foot dans la rue avec ses copains, manifester, s'arrêter pour saluer un ami dans la rue, deviennent, à partir de mars 2024, des activités marchandes et marchandisées, ou interdites. C'est-à-dire, soit vous payez, soit vous n'avez pas le droit de le faire. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions qui sont accordées dans un article ultérieur. Il en va ainsi notamment de toute activité qui débouche sur une transaction financière ou sur un échange de biens valorisés, tels que les vides-greniers, les marchés, le trafic de stupéfiants, la prostitution, etc. Je vais un peu vite. Hop. Et donc les trottoirs partout sont réduits à portions congrues. La chaussée est réservée aux déplacements à visée utilitaire, donc uniquement pour aller soit faire les courses, soit au travail. Les péages urbains se multiplient. Voilà, ça c'est le futur que moi je connais. C'est le futur contre lequel je voudrais vous alerter. Et pour ça, je vais faire un peu de rétro-prospective, comme on dit. Donc l'espace public, il y a des débats depuis de nombreuses décennies sur la définition de l'espace public. Est-ce qu'on doit dire l'espace public, les espaces publics, quelle est la différence? Ces débats-là, ils sont trop longs, on pourrait passer des journées à en parler pour les résumer, pour les départager, etc. Il y a trois définitions, on va dire, qui historiquement me paraissent importantes. La première, celle de Michel Saillard, qui était ingénieur des ponts et chaussées, qui définit l'espace public comme tout ce qui n'est pas construit ou clôturé à des fins purement privées. Ensuite, on a Pierre Merlin, qui est un géographe assez connu, qui part des deux caractéristiques principales de l'espace public, qui sont à la fois la propriété publique, donc c'est tout ce qui n'est pas propriété privée, et qui est affecté à un usage universel. Donc c'est ce qu'il y a, hein, l'espace public est formé par une propriété et une affectation d'usage. C'est donc tout le domaine public non bâti affecté à des usages publics. Alors ce qu'on va retenir de ces deux définitions, d'abord c'est l'opposition assez forte et évidente avec les espaces intérieurs, avec l'accès limité, avec la propriété privée. Et puis, quelques décennies plus tard, Michel Lussault, qui est également un géographe assez connu, alors lui, il appelle ça l'espace commun plutôt que l'espace public. Et pour lui, l'espace public, ou commun donc, c'est ce qui permet la coprésence des acteurs sociaux sortis de leur cadre domestique. Donc ça permet, et Annie Ernaux le montre dans ses écrits, un collègue vous en parlera plus tard, la confrontation entre l'intime et l'extime, entre l'intérieur et l'extérieur, de soi et de son logement. Ça facilite l'apprentissage de l'altérité, de l'autre. En bref, c'est ce qui fait avant tout l'urbanité. Et donc c'est forcément quelque chose qui, dans le master que je suis, est important pour nous. Alors l'espace public, oui, effectivement, on y accède. C'est un espace auquel on accède librement. C'est un espace où on circule librement. C'est un espace que l'on use et que l'on occupe librement, qui nous confronte à l'autre, comme à nous-mêmes. C'est un espace poétique, comme le montrent les surréalistes, et là encore, vous aurez une intervention à ce sujet. Et c'est un espace politique, qui est malheureusement encore genré. Là aussi, vous aurez une intervention à ce sujet. Comment on en est arrivé là, à cette rupture de 2024? Qu'est-ce que c'est que l'espace public aujourd'hui? Alors, l'espace public, aujourd'hui, il est de plus en plus réduit. C'est le premier constat qu'on peut faire. À Paris, la moitié de l'espace public est réservée à la voiture, roulante ou en stationnement. Et tous les collègues motorisés. Ça représente 1419 hectares, très précisément, donc le carré qui est là. Vous rasez tout le bâti qui est sur ce carré, vous mettez toutes les voitures de Paris à l'intérieur. Donc c'est quand même énorme, on peut le dire. Ça représente une voiture, on estime qu'il faut à peu près 8 places de parking par voiture, puisqu'il en faut une à la maison, il en faut une au travail, il en faut une pour déposer les enfants, une pour aller faire les courses, etc. Donc une voiture monopolise 8 places de parking dans une semaine, on va dire. En première approximation, il y aurait 6 milliards de places de stationnement sur Terre. Ce qui fait dire à Michael Kovil Andersen, qui est un designer danois, mais qui est aussi et avant tout cycliste, et qui a fondé le bureau d'études Copenhagen Eyes et l'association Cycle Chic, que la société de l'automobile se caractérise en premier lieu par l'arrogance de l'espace qu'elle attribue à l'automobile, eu égard au nombre de personnes transportées. Donc ils ont, vous voyez, créé ce genre de visuel. Vous avez un carrefour parisien, et à droite, en couleur, la répartition des espaces. Donc les petits points rouges, c'est les voitures, les petits points bleus, c'est les piétons, tous les espaces un peu lilas, mauves, c'est les espaces cyclables, et vous avez le nombre de personnes transportées. Donc vous avez 8 vélos, 12 piétons ici, 26 là, 23 là, et en fait vous avez 23 personnes dans les voitures qui prennent beaucoup plus d'espace que les 26 qui sont sur l'îlot central. Alors il faut également rajouter, et ça on en parle beaucoup en ce moment, les trottinettes, les gyropodes, les hoverboards, tous les nouveaux engins de déplacement personnel qui trouvent leur place ni sur la chaussée, ni sur les trottoirs. Alors on va les mettre sur les pistes cyclables, ce qui sera assez intéressant quand ils découvriront qu'il n'y a pas de continuité dans les équipements cyclables. Et le cas des trottinettes, il est particulièrement symptomatique, puisque un peu partout, alors surtout dans les grandes villes, hein, dans les métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc., il y a une offre en free-floating qui s'est beaucoup développée. Alors c'est-à-dire, free-floating, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de borne de stationnement comme on connaît... voilà, pour les Vélib, par exemple, où vous avez une borne, vous décrochez le vélo, et puis vous le remettez à une autre borne. Là, c'est laissé au milieu de l'espace public. Et qui veut s'en servir, voilà, l'apprend, s'acquitte du droit d'usage, s'en sert et la redépose à l'endroit où il veut. Et donc, voilà, alors là, il y en a qu'une. Mais si vous allez à Paris, ou même à Lyon, puisque j'en reviens, vous verrez des trottinettes comme ça posées au milieu des places, des trottoirs, un peu de manière anarchique. Parfois même dans les entrées d'immeubles. Et c'est d'autant moins de place pour marcher, pour stationner son vélo, pour s'asseoir en terrasse. Même s'il y a bien longtemps que, et notamment à Paris, la flânerie et la déambulation dans les rues est mise en danger par la présence inopportune et démultipliée du mobilier urbain, qui est là aussi rival, on va dire, de l'espace public. Vous avez des exemples ici. Alors, du simple banc public ou de la sanisette jusqu'aux innombrables potelets. Vous avez quelques photos ici. Alors ça, c'est des potelets. Vous avez à gauche, c'est un quartier du Havre, et à droite, c'est le front de mer du Havre. Il y a 335 000 potelets à Paris. 335 000. Ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, 4 fois plus que le nombre de pigeons dans Paris et 3 fois plus que le nombre d'arbres plantés dans Paris. 335 000 potelets dans Paris. Et donc le mobilier urbain, bah, c'est un vrai casse-tête pour les PMR, pour les piétons, mais aussi pour les PMR, pour qu'ils soient handicapés moteurs, ou que ce soit, parce que les PMR, c'est aussi les femmes avec des poussettes, enfin les adultes avec des poussettes, parce que ça peut être des hommes aussi, ou les personnes, voilà, ça peut être des personnes aveugles, ça peut être des personnes avec des béquilles. C'est un véritable casse-tête, et en plus, alors pas cela, mais vous avez, on en voit un petit peu au loin, ce qu'on appelle les sucettes de co, les espaces publicitaires, voilà, qui sont dessinés par le privé, mais qui sont destinés au public, et qui sont des espèces d'îlots marchands sur l'espace public. Alors, c'est des repères, certes. Hein, quand on pense aux Fontaine-Wallace, aux colonnes Maurice, même les kiosques, les sanisettes, enfin, c'est des points de repère, ça peut être des points de rendez-vous, mais est-ce que ça fait pour autant des centralités et des lieux d'urbanité? Est-ce que c'est des lieux de rencontre? Est-ce que c'est des lieux qui font ce que Michel Lussault appelait l'apprentissage de l'autre? On peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de bancs? Oui. Est-ce qu'on a besoin de bancs pour se reposer, pour discuter, pour déjeuner sur le pouce entre collègues? Oui, sans doute. Alors là, j'ai pas ramené la photo, mais au terminus du tramway du Havre, sur un espace de, on va dire, 50-70 mètres carrés, il y a 22 bancs. J'ai compté 22 bancs hier. parce qu'en fait, voilà, ils avaient des bancs, ils ne savaient plus où les mettre. Donc ils les ont mis tous à cet endroit-là. Et vous avez vu sur le tramway, vous n'avez même pas vu sur un truc sympathique, vous avez juste vu sur le tramway. Et à cet endroit-là, en fait, on ne peut quasiment pas marcher, on ne peut pas circuler à vélo, parce que vous avez ces bancs qui sont inusités, évidemment, puisque la vue n'est même pas agréable. Et ça, est-ce qu'on a besoin de tous ces bancs-là? C'est pas sûr. Alors, voilà, donc les espaces publicitaires, ils gênent la marche, ils polluent la vue, ils polluent l'esprit, ils accaparent l'espace et le temps, et même, aujourd'hui, ils imprègnent jusqu'au sol. Et vous avez ce genre de publicité éphémère qui dicte et qui dirige nos pas, qui envahissent un peu plus nos esprits, et qui font que la consommation est quasiment devenue le seul enjeu de déplacement dans l'espace public. Donc à gauche, voilà, vous avez une publicité. Alors à gauche c'est Le Havre, à droite c'est Lyon. J'en ai mis deux, mais j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres. Vous avez ce genre de publicité qui émerge de plus en plus sur l'espace public. Donc ça c'est pour la réduction de l'espace public. Vous avez aussi une autre tendance qui est la privatisation de l'espace public. On y est déjà un petit peu avec cette publicité. Le premier point, c'est déjà de s'accorder sur les seuils. Où commence et s'arrête l'espace public? Est-ce que c'est dès la porte de l'immeuble franchi? Est-ce que c'est dès la porte du logement refermé? Et la frontière, est-ce que c'est sur la chaussée? La frontière est assez ténue. Et Nicolas Soulier, donc, il parle de notion de frontage. Alors le frontage, c'est l'espace, c'est une composante majeure, hein, du système de déplacement, du tissu social. C'est l'espace qui relie la façade d'un bâtiment à la chaussée. Ce qu'on appellerait nous le trottoir, mais c'est un peu plus que ça. Donc ça, c'est un espace qui peut être aussi bien public que privé. Alors vous avez la distinction, hein, ici, vous avez l'espace public donc, qui est la rue, le domaine public c'est la voirie, il y a des différences un peu juridiques. En vert c'est ce qui est privé et en rose c'est ce qui est public. C'est-à-dire que les espaces, alors ça peut être un jardin que vous avez devant chez vous par exemple, mais ça peut être aussi, ne serait-ce que la petite bande devant les marches pour accéder à votre immeuble, puisque c'est au locataire ou au propriétaire, le cas échéant, de nettoyer la neige ou de nettoyer les feuilles mortes devant la porte, par exemple. Et cette partie du trottoir, au final, elle n'est pas du ressort des pouvoirs publics. C'est à vous de l'entretenir et c'est surtout à vous de la respecter. Quand on fait des constructions nouvelles, il faut respecter ce frontage, et sinon vous êtes frappé d'alignement, comme on dit. Il y a un cas, alors pour vous ça va vous paraître assez nouveau, mais dans le futur c'est un truc qui s'est beaucoup développé. Il y a l'histoire de Google, je sais pas, vous connaissez sans doute Google. En octobre 2017, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, la ville de Toronto a annoncé avoir choisi Sidewalk Labs, qui est une filiale de Google, pour réhabiliter et revitaliser un quartier entier de Toronto au bord du lac Ontario. Donc cette filiale, Sidewalk Labs, promet d'en faire un lieu d'expérimentation urbaine, une smart city, un smart district en l'occurrence, mais une smart city écologique, respectueuse des données des habitants. C'est une zone de 12 hectares, donc c'est pas pour l'instant très grand, mais voilà, le but c'est d'occuper un espace de 800 hectares pour en faire la première plateforme urbaine possédée et gérée par une entreprise. Absolument tout y sera mesuré, évalué, optimisé, de la gestion de l'eau à l'usage des bancs publics. Donc l'idée de départ, elle est claire, hein, c'est mettre la donnée au service de la qualité de vie, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces usages des espaces publics qui serviront la seule cause de Google. Et moi, ça m'évoquait ces gated communities que vous avez en photo ici, que les amateurs de séries américaines ou de films américains connaissent bien, qui sont des quartiers entiers cernés de portails, de huttes gardées par des vigiles contrôlant les accès, avec des rues désertes, des voitures bien garées, pas d'enfants qui courent dans les rues, les jardins bien tondus, etc., et qui dessinent un peu les frontières de ce que Oscar Newman appelait l'espace défendable. Pourtant, Jane Jacobs avait théorisé dès 1961 que les rues les plus sûres n'étaient pas les rues vides, mais les rues qui étaient au contraire remplies de piétons et appropriées par les piétons. Alors Thierry Pacaud, lui, il parle de ces enclaves résidentielles comme des ghettos de riches qui refusent toute mixité et tout frottement avec les autres. Ces rues, ces places, donc à droite c'est Truman Show, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est plus des espaces publics en fait. D'ailleurs, c'est entretenu souvent par la communauté qui y habite, souvent sous-traité, à leurs frais. C'est finalement peu utilisé et c'est pas des espaces d'urbanité. c'est pas l'apanage des États-Unis, hein. On en trouve en France, en région parisienne, on en trouve en Inde, au Brésil, en Chine, etc. Et vous avez aussi aujourd'hui, alors ça c'est quelque chose de différent, mais c'est une actualité récente aussi. Apple, j'imagine que vous connaissez Apple aussi. La vice-présidente d'Apple, il y a 2 ans, elle a annoncé le déploiement d'un nouveau concept pour la nouvelle génération d'Apple Store, qui est de faire des boutiques d'Apple, des lieux de rassemblement, des places publiques privées, des aires de rencontre, tournées autour des produits phares de la marque. Alors, ils ont essayé de s'implanter à Melbourne, mais l'idée, c'était de prendre la place d'un musée des traditions aborigènes, donc la population a dit non. Ils ont essayé la même chose à Stockholm, à la place Royale, où la population a dit non. Et ils ont quand même réussi de le faire à Milan. Donc là, voilà, vous avez une place qui a ouvert en juillet dernier, à Milan, qui est une espèce d'espace public, avec la fameuse pomme au milieu, et à l'intérieur, vous avez ça, avec des arbres. Donc ça, c'est les nouveaux espaces publics, tels que pensés par Apple. Vous pouvez venir rencontrer vos amis et acheter des iPads. Voilà, c'est une tendance émergente. Apple essaye de faire ça un peu partout, et c'est aussi dangereux parce que là, c'est propriété d'Apple. Les pouvoirs publics ne sont plus propriétaires de ce terrain-là. Alors contre ça, il y a et j'en viens presque à ma conclusion, il y a des mouvements qui se montent pour essayer de reconquérir cet espace public en danger, de plus en plus réduit et de plus en plus privatisé. Qui saisissent un peu les dangers, les pertes territoriales qui sont subies par la sphère de l'altérité. Donc c'est le cas de mouvements militants. Vous avez pas mal d'images ici. Alors vous avez les casseurs de pubs qui voilà, recouvrent ou repeignent les panneaux publicitaires, les occupations ludiques de places de parking ou de rues entières. Là vous avez des Reclaim the Street à Bruxelles, au Havre, et des choses un peu internationales. C'est du détournement poétique un peu. C'est une manière de manifester inventivement son envie d'une autre gestion de l'espace public. Vous avez également des mouvements démocratiques, Occupy Wall Street, voilà, les printemps arabes, Nuit debout, un porteur de parole à gauche, des choses parfois toutes simples, parfois très symboliques, et qui là aussi permettent à l'espace public de redevenir un peu cet espace de la civitas grecque. De l'agora, de la citoyenneté, de la doléance, et donc parfois de certains printemps de la révolution. Et puis vous avez des mouvements un peu sans prétention, parfois, mais qui sont toujours hautement symboliques, à savoir le street art. Alors ça peut aller du muralisme, le graffiti, ou la décoration de mobilier urbain, qui rappelle que l'espace public est aussi là pour susciter l'émerveillement, susciter la surprise, stimuler nos sens, et pour accaparer l'espace en 3 dimensions, que ce soit des pignons aveugles ou des petits du mobilier qui empêchent la circulation. Et puis enfin, vous avez donc ce que moi j'appelle les mouvements invisibles, qui sont des lignes de désir. Donc c'est les lignes en fait que vous voyez tracées dans l'herbe, qui sont des chemins que les usagers créent par leur circulation et qui détournent le chemin principal, le chemin pensé pour eux. Et qui, donc, par ce biais-là, revendique un usage très personnel et détourné de l'espace public. Alors, je vous ai parlé au début de cette fameuse rupture de 2024 et de l'espace public en tant qu'espace marchand. Il y a un autre futur qui est possible. Et celui-là, il interviendra en 2033 si vous faites en sorte qu'il advienne. La charte d'Athènes 2 de l'UNESCO. Déclare donc que l'espace public est un bien commun, que plutôt qu'à tous, il n'appartient à personne, et que plutôt que par quelques-uns, il est gouverné par tous. Et l'UNESCO décide par cette phrase de classer l'espace public patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et pour en assurer la sauvegarde, le G11 décide d'en faire un commun dans la lignée d'Elinor Ostrom, la prix Nobel d'économie, ou de Sheila Foster, qui affirment que les habitants ont le droit à leur ville. Alors là, ils reprennent un peu le vocabulaire d'Henri Lefebvre, qu'ils ont le droit de participer à la création de leur ville, d'utiliser les ressources collectives étant tangibles et intangibles, comme les rues, les parcs, les jardins, etc., avec une espèce d'autocontrôle des usagers, une gouvernance participative et décentralisée, avec cette idée que l'usage des espaces publics par les uns ne diminue pas l'usage des autres. Au contraire, il peut même l'augmenter. Et donc, suite à cette charte d'Athènes, quelques mois plus tard, l'ONU lui suivra le pas en ajoutant à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'accès et l'utilisation libre des espaces publics est un droit inaliénable de l'humanité. Alors évidemment, en 2033, la publicité et l'automobile seront encore là, mais ça, c'est un autre combat. Et pour terminer, pour vous pour alimenter votre réflexion, je vous citerai Isaac Joseph, qui est un grand penseur de l'urbain, qui a écrit deux ouvrages indispensables, qui sont « La ville sans qualité » et « Le passant considérable ». Et dans « Le passant considérable », il y a cette phrase que je trouve très belle. « L'espace public n'attribue aucune place. S'il est appropriable ou approprié, ne serait-ce que partiellement, il est déjà dénaturé. »
Merci beaucoup, Thomas.
Je vous en prie.